9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé, bonjour et bienvenue. Octobre est le mois de l'année où l'on parle le plus de cancer en France, avec Octobre Rose, le mois consacré au dépistage du cancer du sein. Nous allons aujourd'hui continuer à mieux comprendre ce qu'est le cancer et ses traitements. J'ai invité Laurent Schwartz, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe Robichon.
Vous êtes cancérologue et radiothérapeute de formation. Depuis 40 ans, vous travaillez sur le cancer. Vous êtes spécialisé dans le cancer de l'œil, dont on parle jamais. Hein. Et trop peu de scientifiques, de médecins osent s'aventurer en dehors des chemins balisés, hors de la pensée dominante. Vous, si. Je sais pas, c'est pas le sujet de l'émission, mais je ne sais pas quel est le prix de la liberté quand on s'éloigne trop de la bien-pensance.
Il est réel et lourd.
Oui. C'est parfois compliqué. À quel moment vous êtes sorti du chemin? Vous aviez déjà combien d'années de pratique? Dès le départ, vous étiez en dehors, ou c'est votre pratique qui vous a fait comprendre que en termes de cancer, on faisait fausse route?
Non, j'ai fait mes études aux États-Unis.
Oui.
Après avoir fait 2 ans d'internat à Strasbourg, et au bout de 3 ans des États-Unis, je suis retourné à Strasbourg voir mes anciens malades.
Oui.
Et la majorité était mort. Donc c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il fallait changer le système et qu'il fallait aller vers autre chose.
Bien, je vais vous demander de rapprocher votre micro. Il faut l'avaler, ce micro, pour qu'on vous entende bien. Vous avez étudié à Harvard.
Voilà.
Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Vous publiez « Les clés du cancer » chez Thierry Soucard. Alors, c'est un texte collectif, on en a déjà parlé, mais on va rappeler que c'est un texte collectif, et vous avez demandé à d'autres spécialistes de regarder eux aussi le cancer, des physiciens par exemple, des biologistes, des mathématiciens, qui vous ont aidé à peut-être mieux appréhender le cancer, ou voir des choses que vous ne voyez plus, vous.
Nous sommes devant une impasse thérapeutique qui s'appelle le cancer. Quand vous avez affaire à un cancer métastatique, aujourd'hui ça reste un drame. Et il était temps, et plus que temps, que l'on essaie d'y comprendre quelque chose.
Ouais.
Donc pour y comprendre, bien sûr, il a fallu qu'on se mette en groupe avec des gens qui étaient naïfs au sens médical du terme, c'est-à-dire qui n'étaient pas moulés par la pensée dominante et qui seuls étaient capables de trouver quelque chose d'autre. Et c'est l'apport des physiciens et des matheux qui aiment les problèmes insolubles et qui aiment trouver la solution de tout cela.
Bon, parce qu'en termes de cancer, on n'a toujours pas la solution.
Non, c'est ce que... Je pense qu'on a compris. On a compris ce qui se passe. Le cancer est un mode de fermentation, le sucre est mal brûlé et c'est dû à un excès d'électrons. Et on est en train de soumettre un papier qui explique tout ça. Le travail est fait par Romain Attal, qui est un des mathématiciens avec qui on travaille,
ouais,
et avec Marc-Henri. Et je pense que ça, c'est compris. Alors maintenant se pose un problème fondamental, c'est le temps de la science avance lentement, une publication à la fois, et il y a les malades. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on fait des malades?
Bien. Et on verra ce matin, justement, quelle alternative vous proposez, et notamment le traitement métabolique sur lequel vous avez travaillé pendant des années. Il y a une légende urbaine qui est très répandue, et je l'ai entendue, mais alors des dizaines de fois, même des personnes l'ont dit à l'antenne, qui prétend que des milliers de nouveaux cancers apparaissent chaque jour dans notre corps et que notre système immunitaire agit comme le font des pompiers pour nous en débarrasser. Et vous, vous dites que c'est une légende urbaine.
Oui, personne ne sait si c'est vrai. C'est écrit partout, c'est dit partout. J'ai cherché les publications qui le démontraient, il n'y en a pas. Ce qui est clair, c'est que quand vous faites des autopsies des prostates des hommes âgés, vous voyez des cellules qui ont l'air d'être des cellules tumorales, mais c'est probablement des cancers qui ne se seraient jamais développés. Je pense que cette image...
D'accord, ils ne se seraient jamais développés, mais ils existent ou pas?
Il y a des cellules qui ont l'air anormales qui existent dans les prostates des vieux, ça c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que les gens seraient morts, même s'ils avaient vécu 10 ou 20 ans de plus, de cancer de la prostate.
Mais est-ce qu'elles sont cancéreuses ou pas?
C'est une vraie question. Je veux dire, ce n'est pas comme du blanc sur du noir.
Ouais.
Personne ne sait en réalité.
Alors, il y a beaucoup de dogmes qui dominent la cancérologie. Il y en a un qui dit qu'il faut tuer la folle cellule du cancer. Alors, pourquoi, selon vous, c'est une erreur de vouloir tuer cette folle cellule? Et qu'est-ce qui serait plus juste de faire pour traiter un cancer, selon vous?
Alors, comme toujours, j'aime bien ramener les choses à l'histoire parce que c'est plus simple. La cancérologie moderne est le fruit des batailles du XXe siècle. La chimiothérapie, ce sont les gaz de combat. La radiothérapie, c'est la technologie militaire. Et le dogme qui est là depuis les années 1940, il faut tuer la cellule cancéreuse. Et ce dogme-là, à mon avis, n'est pas le bon. On a progressivement, depuis les années 40, augmenté les doses de chimiothérapie, autant en clinique qu'au laboratoire. Quand vous voulez lancer un nouvel anticancéreux, vous montez les doses jusqu'à toxicité et vous vous mettez juste un peu en dessous de la dose toxique, de façon à ne pas tuer le malade, ce qui est tout de même souhaitable, et vous traitez comme cela. Et ça évidemment entraîne des réponses, parce que les cellules tumorales répondent, mais vous ne prolongez pas de façon évidente la survie des malades dans certains de ces cancers. Il y a évidemment des cancers qu'on guérit, comme les cancers de Maddy-Hodgkin ou des testicules, mais la majorité des cancers, l'augmentation de dose, qui est un des dogmes centrales de la cancérologie, c'est-à-dire d'y aller de plus en plus fort jusqu'à toxicité pour permettre de tuer les cellules tumorales, à mon avis, ça ne marche pas bien, voire pas du tout.
Mais est-ce que plus on augmente la dose et plus efficace est le produit ?
Ben ça, c'est un vrai débat. Plus on augmente la dose, plus on a de réponses. Ça, c'est clair. Plus la tumeur diminue de volume, mais c'est pas pour autant que vous gagnez en survie. Et la majorité des analyses que font rapportent les scientifiques aujourd'hui, c'est en pourcentage de réponses. C'est-à-dire que vous allez voir 50-60% des tumeurs qui répondent, mais vous n'avez pas les résultats en termes de survie. Ça n'est pas nécessaire pour enregistrer les médicaments, et donc ça n'est pas rapporté dans la majorité des publications. Moi, je suis convaincu que d'y aller de façon lourde et violente n'est pas forcément rendre service aux malades. Au fond, il y a plein de maladies que l'on traite bien, comme le diabète, l'hypertension ou je ne sais quoi d'autre, sans les guérir. Et probablement, on ne va pas pouvoir guérir le cancer dans des cas fréquents, mais on va pouvoir tenir les malades de façon à ce qu'ils aient une vie normale sur la durée. Ça, c'est mon but.
C'est-à-dire que c'est pas éradiquer la tumeur, ni tuer la tumeur, c'est ralentir son développement, c'est ça ?
Oui, de façon à ce qu'elle ne gêne pas le malade et qu'il ait une vie normale. Vous ne guérissez pas de l'hypertension artérielle, vous ne guérissez pas du diabète, mais aujourd'hui, on ne meurt plus de diabète s'il est traité convenablement. C'est ce que j'ai comme but en cancérologie. Oui. Je pense que d'aller tuer les cellules tumorales est un rêve. Ça ne marche pas au sens du dogme. Le dogme est faux, il faut contrôler la croissance des tumeurs et surtout ne pas violenter le malade par des thérapeutiques beaucoup trop violentes.
Ouais. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à les tuer, ces tumeurs, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'une chimio agressive ne vous débarrasse pas de la tumeur.
Si vous prenez un cancer courant, mettons cancer du sein ou cancer du côlon, enfin peu importe, vous allez faire une chimiothérapie, les tumeurs vont rétrécir, mais dans l'immense majorité des cas, elles vont revenir. Et quand elles vont revenir sur un mode plus violent. Donc, évidemment qu'on gagne quelque chose, mais on ne guérit pas les malades.
Donc, pour vous, vouloir tuer des cellules cancéreuses, c'est une fausse piste ?
Je pense que c'est une piste qui vient de l'histoire, parce que tout ceci, comme je le disais plus avant, c'est des fruits de la recherche militaire, en tout cas largement, et que ce n'est pas forcément la seule façon de traiter le cancer.
Alors, on va peut-être faire un peu de cuisine pour ceux qui aiment bien la choucroute, une cellule ou les cornichons, en tout cas tous les produits lactofermentés, ce qu'on appelle la lactofermentation, mais la lactofermentation est très à la mode aujourd'hui. Une cellule cancéreuse, c'est la même chose que de la lactofermentation ?
Ah, ça y ressemble beaucoup. C'est une cellule qui prolifère parce qu'elle n'arrive pas à brûler. Comme elle ne brûle pas bien, elle grossit, elle se divise. Mais le mécanisme de fermentation, qui est déjà vu par Louis Pasteur en 1860, je veux dire, c'est une vieille histoire. Il prend de la levure de bière parce qu'il travaille pour les brasseurs de Lille.
Ouais.
Il diminue la teneur en oxygène et les cellules prolifèrent. Diminuer la teneur en oxygène, c'est-à-dire fermenter dans d'autres termes, ça fait pousser, diviser les cellules. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est comme ça que ça se passe.
Même si une cellule cancéreuse, elle est pas acide, elle est basique, elle.
Alors, elle est acide à l'extérieur et basique à l'intérieur.
Vous nous expliquez ?
Bon. La cellule tumorale ne peut pas brûler du sucre, ne peut pas le brûler. Donc, la mitochondrie va mal marcher, comme elle marche mal, et il va y avoir moins de gaz carbonique de produit qui fait un acide. Donc, comme il y a moins d'acide à l'intérieur, c'est basique. Et l'acide sous forme d'acide lactique va sortir, et c'est acide à l'extérieur.
C'est le milieu dans lequel elle baigne, en fait.
Elle baigne dans un milieu acide, alors qu'elle est basique à l'intérieur. Et au fond, c'est des choses extraordinairement fondamentales. Et nous avons été les premiers à mesurer le pH intracellulaire des cellules pour voir simplement mesurer où en était le pH. C'est dire aussi les lacunes qu'il y a dans les recherches en cancérologie. Parce que vous avez tout ce que vous voulez sur les marqueurs de ceci ou de cela, mais la simple mesure du pH ou de la teneur ionique, c'est des choses qui ne sont pas faites.
Vous avez prononcé un mot, c'est la mitochondrie. Alors, c'est peut-être pas clair pour tout le monde, même si en lisant votre livre, j'ai peut-être compris que finalement le cancer, c'était une maladie de la mitochondrie.
Toutes les maladies sont des maladies de la mitochondrie.
Alors, expliquez-nous un petit peu ça pour qu'on comprenne bien.
Une tumeur ne peut pas brûler du sucre. Elle ne peut pas brûler du sucre, donc elle acidifie l'extérieur, elle est basique à l'intérieur, comme on disait plus avant, parce que l'usine qui permet de brûler le sucre, qui s'appelle la mitochondrie, ne fonctionne pas. La
mitochondrie. Vous dites que ce sont les poumons des cellules,
oui,
pour prendre un exemple. C'est-à-dire, c'est elle qui apporte de l'oxygène?
C'est elle qui utilise l'oxygène. L'oxygène qui arrive par le sang est brûlé au niveau de la mitochondrie, c'est là où ça se passe. Et quand dans ces poumons ça se passe mal, ça s'appelle une tumeur.
Alors, il y a une idée, peut-être simplifiée à l'extrême, hein, c'est que les cellules cancéreuses aiment le sucre et que finalement, il suffirait de les priver de sucre pour qu'elles disparaissent.
Alors ça, c'est une idée qui est largement ancienne, parce que dès les années 1940, il y a le premier papier sur le régime cétogène.
Et quelle année ?
1942.
1942,
vous rendez compte ? Pendant la guerre, ouais. Munich, en Autriche, un dénommé Brüning, qui est un ORL, prend des cancers, les met sous régime cétogène et sous insuline, c'est un élève de Warburg, et il dit « les tumeurs régressent ». Mais malheureusement, et c'est ça le problème, elles vont repousser. Donc, beaucoup de gens mettent les malades sous régime cétogène. Le régime cétogène, je vous le rappelle, c'est un régime appauvri en sucre. Aujourd'hui, 60% de ce que l'on mange, c'est du sucre. Du sucre sous forme de pâte ou souvent de pain ou... pas forcément sous forme de sucre raffiné, et ce sucre nourrit les cellules tumorales. Et donc, quand on diminue l'apport en sucre, les tumeurs chez l'animal vont régresser, et chez l'homme, il semble y avoir un bénéfice. Mais malheureusement, il y a plusieurs problèmes. Le premier, ça n'est qu'une impression, parce qu'il n'y a aucun essai randomisé, bien fait, qui étudie l'apport du régime cétogène en complément des thérapeutiques classiques. L'IGR va commencer un essai sur le cancer du rein fait par le professeur Escudier, mais pour l'instant, il n'y a rien dans la littérature. Et le deuxième sujet qui est un vrai...
Depuis 1940, on n'a pas essayé d'étudier depuis.
Non, alors vous avez des travaux sur les souris, vous avez des travaux qui comprennent évidemment la digestion du sucre, mais des essais aussi basiques et fondamentaux, je réduis la quantité de sucre que je mange, est-ce que mon cancer pousse moins vite, ça n'a jamais été fait. D'où des gens qui disent que ça marche, d'autres qui disent que ça ne marche pas, et au fond, des débats qui sont sans fin. Et la communauté scientifique qui ne sait pas. Ceci dit, il y a beaucoup de médecins qui pensent que c'est possiblement extrêmement utile. Il y a une publication qui est sortie en disant que le glioblastome, qui est une tumeur du cerveau, le traitement doit être un régime cétogène comme le traitement de base. C'est vrai, c'est faux, personne ne le sait au fond.
Mais on a constaté que sur certains malades, ça fonctionnait, c'est ça? C'est ça que ça veut dire.
Ce que les malades rapportent, c'est que ça marche. Alors, il y a un bémol qui est un bémol fondamental, c'est jusqu'à quel point est-ce que ça marche. Parce que les cellules tumorales, elles ne sont pas idiotes, contrairement à ce qu'on raconte. Et donc, quand l'apport en sucre est diminué, ben, elles vont se servir ailleurs. Les protéines, évidemment, ça on le sait depuis longtemps, mais aussi les lipides.
C'est-à-dire qu'elles vont changer de régime alimentaire, c'est ça que vous voulez dire?
Oui, oui, elles vont changer de régime alimentaire. Elles vont se nourrir de ce qu'elles ne prenaient pas en premier abord, qui étaient les lipides. Elles vont finir par le prendre. Donc le régime cétogène, ça marche jusqu'à un certain point, parce que les cellules tumorales sont capables, elles aussi, de digérer les corps cétoniques, c'est-à-dire les dérivés du gras.
Mais est-ce que ce n'est pas la grande leçon? Finalement, le corps est très intelligent, il s'adapte, et que finalement, les traitements marchent jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le corps s'adapte et qu'il trouve une autre stratégie.
Oui, ça c'est un vrai sujet. Après, nous avons à comprendre ce que veut dire adapter. Et qu'est-ce qui se fait qu'une cellule, tout d'un coup, ait l'intelligence ou les capacités de changer de régime alimentaire?
Oui, donc à ce moment-là, la cellule donc cancéreuse va se nourrir de gras, par exemple, ou de... ou de lipides ou...
Oui, alors c'est vrai, mais pas pour toutes les, cellules. Par exemple, les cellules tumorales des glioblastomes, les cellules celles-là ne semblent pas capables de brûler du gras. C'est pour ça que ça marche mieux dans les glioblastomes.
Bien, profitons de la venue aujourd'hui de Laurent Schwartz, qui est notre invité jusqu'à 10h. Je rappelle, Laurent Schwartz, que vous publiez Les Clés du Cancer aux éditions Thierry Soucard.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS, avec Philippe Robichon.
Laurent Schwartz est notre invité aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes cancérologue et radiothérapeute de formation. Vous travaillez sur le cancer. Vous êtes spécialisé dans le cancer de l'œil et vous publiez Les Clés du Cancer chez Thierry Soucard, un des nombreux livres que vous avez écrit sur le cancer et sur les traitements du cancer. On a une phrase qu'on aime bien tous les deux, c'est « Ne regardez pas dans le rétro, c'est devant que ça se passe ».
Ah, moi, j'aime bien le rétro, tout de même.
C'est vrai, vous aimez bien regarder dans le rétro?
J'aime bien les vieux livres. Parce que dans les vieux livres, il y a plein de choses. Les gens qui nous ont précédés, qu'on a largement oubliés, bah, ils savaient plein de choses et ils ont pensé à plein de trucs.
Vous pensez à quel livre?
Je pense aux vieilles histoires sur le bleu de méthylène, pour parler cancer.
Si vous nous cherchez, parce que vous savez que là, les auditeurs vont tous demander où on trouve du bleu de méthylène.
Je vais vous répondre, mais je vais peut-être d'abord répondre à l'historique. Il y a des livres... Alors, je suis allé à la Bibliothèque nationale de France, vénérable institution, pour essayer de sortir les publications d'avant la guerre de 14 sur le bleu de méthylène. Donc, il y a déjà plein de choses. Le bleu de méthylène, donc, c'est ce qu'on disait l'autre fois, est un traitement de base pour plein de maladies, de la malaria à la phobie... ou comme antidépresseur. C'est aussi un traitement probablement du cancer. C'est ce que l'on est en train de démontrer en collaboration avec l'Université de Montréal. Évidemment, se pose la question du traitement des malades. Donc moi, ce que je sais faire et essentiellement faire, c'est de la recherche. Et comme je vous disais plus avant, la recherche avance à sa vitesse et les malades, par contre, sont dans l'urgence. Le bleu de méthylène est grosso modo un médicament sans danger majeur. Ce n'est pas une drogue violente et c'est des centaines de milligrammes qui ont été donnés par jour pour traiter le paludisme pour les Américains pendant la guerre du Pacifique. Ça a entraîné que les yeux étaient bleus et souvent la peau aussi un peu bleue, mais pas de troubles majeurs. Donc ça nous différencie totalement de la chimiothérapie dont je vous disais plus avant qu'on était toujours dans des doses à la limite de la toxicité. Pour ces molécules, il n'y a pas de la toxicité majeure. Ce que font les malades et ce que m'en rapportent les malades, c'est pas moi qui ai trouvé le bleu de méthylène, c'est que des doses de l'ordre de 75 mg par jour, une ou deux fois par jour, semblent ralentir la croissance tumorale. Le bleu de méthylène est un médicament et donc il faut avoir une prescription pour l'utiliser. Il n'est pas vendu industriellement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilule de bleu de méthylène comme il peut y avoir des pilules de doliprane. Et donc c'est ce qu'on appelle une préparation magistrale, c'est-à-dire que le pharmacien va mettre en gélule ou faire mettre en gélule et le vendre. Le bleu n'a pas de danger médical majeur. Il colore évidemment les urines en bleu, mais à part quand il est pris en même temps que les antidépresseurs, ne semble pas violent. Donc quand les malades, moi, m'ont rapporté l'efficacité du bleu de méthylène, hein, c'est de loin pas mon idée, c'est évidemment poser la question de comment ça marche. Donc j'ai demandé à des amis chimistes qui m'ont expliqué que c'est un transporteur des électrons, c'est une molécule pour parler technique proche du FAD, donc d'un transporteur des électrons, et ça va enlever les électrons qui
c'est
sont...
C'est quoi le FAD?
Flavine aminode des aminases. C'est une molécule qui fait tourner la mitochondrie, enfin peu importe.
Mais non,
mais
c'est important.
Non, mais je veux dire,
on se couchera moins con ce soir.
Oui, mais si, on va perdre tout le monde.
Non, parce que si vous parlez d'un sigle et quelqu'un dit FAD, c'est quoi? FAD, voilà.
Ça permet de relancer la mitochondrie. Donc on a fait plusieurs choses. Un, les malades nous racontent ça. Deux, on voit que chimiquement ça a du sens et que ça colle avec le travail qu'on est en train de faire. Et évidemment, je retrouve les vieux livres où on disait que ça marchait. Chez les animaux, il y a des publications des années 20, des années 30, et on finance par l'intermédiaire de la Fondation de France une étude pour vérifier que ça marche bien chez les cellules beaucoup plus modernes, là, et comment ça marche.
Mais comment ça pourrait marcher, alors? Quelle est l'explication?
Alors, Le bleu de méthylène va diminuer ces électrons qui sont responsables de la pression électronique et qui entraînent l'effet Warburg et vont permettre aux cellules de re-respirer. Et en permettant aux cellules de respirer, elles ne vont pas se diviser. Alors le problème qu'ont les malades, c'est que on va pas traiter un cancer avec du bleu de méthylène. Tout seul, ça suffit pas.
C'est ça
pas
qu'il assez, faut comprendre. Hein,
C'est pas assez puissant. Par contre, en conjonction avec les traitements classiques, d'après ce que racontent les malades, et donc hors essais thérapeutiques, vous voyez tous les bémols que j'essaie de mettre.
Oui, bien sûr.
Il semblerait que ça ralentisse la croissance tumorale.
Pour empêcher le cancer de croître, donc, il suffit de relancer l'activité de la mitochondrie quand c'est encore possible. Vous avez réfléchi à une combinaison de traitement. Vous y avez travaillé combien d'années ?
Oh, ben ça fait au moins 20-30 ans, je veux dire,
voilà.
ça date
donc,
pas d'hier.
C'est pour comprendre, hein. C'est de 20-30 ans, ça a coûté la vie à de nombreuses souris.
Au moins 20 000.
20 000 souris, d'accord. Bon, vous expliquez un petit peu, votre a priori, c'était de dire que le cancer, c'est une maladie métabolique. Et que ça doit se soigner comme une maladie métabolique, c'est ça ?
Oui, c'est-à-dire, je reprends ce que je disais plus avant, une maladie métabolique, vous n'êtes plus dans la... je vais vous détruire. Vous êtes dans « je vais vous contrôler ». C'est quelque chose que vous pouvez contrôler et pour lequel il faut un traitement doux qui soit compatible avec la vie parce que vous êtes sur une durée longue. Et donc, moi, ce que j'ai fait, mais ça remonte maintenant à largement 20 ans, c'est on s'est mis en tête qu'une molécule n'allait pas suffire et qu'il fallait au moins deux molécules. Donc, on a fait injecter 20 000 souris, pour essayer de trouver des combinaisons de médicaments qui puissent ralentir tout ça. Donc c'est un boulot, 5 ans, 6 personnes, fait par mon ami Mohamed Aboulhassani, et avec ça, on arrive à arrêter la croissance de toutes les tumeurs chez l'animal. Donc après, j'ai essayé de...
Mais comment vous en êtes arrivé à partir de ces molécules-là ? Qu'est-ce qui vous a donné l'idée finalement, que ces molécules-là associées pouvaient être efficaces sur des cellules cancéreuses.
Mais ça fait partie des paris de Pascal. À un moment, pour moi, il était évident que si je voulais régler l'histoire du cancer, ou en tout cas y contribuer, il fallait que je change de dogme, c'est-à-dire qu'on n'allait plus tuer les cellules et qu'on allait leur permettre de respirer. Alors, les molécules susceptibles de permettre de respirer, il y en avait à l'époque 120. Donc, on s'est dit qu'une molécule, ça n'allait pas suffire. C'est un pif, hein, un pari.
A priori.
Ouais, du pif. Moi, j'aime bien le terme de pif. Et on s'est dit, il faut au moins deux molécules.
Nous, on dit du NIF ici.
Si vous voulez.
Ça vous va, le NIF ?
Si vous voulez.
Bon, vous avez eu du NIF.
Bon, et après, moi, je ne crois pas aux lignées cellulaires, aux cellules isolées. Je crois aux cellules qui poussent dans les animaux parce que c'est plus proche jusqu'à l'homme. Et donc, on a fait du screening et du dépistage de masse.
Bon. Donc, les deux combinés, enfin, vous avez combiné quoi avec quoi ?
Alors, ce qui a marché, c'est une combinaison d'acide lipoïque et d'hydroxycitrate. Donc, c'est une combinaison de premières molécules qui sont des molécules anciennes. Alors, le travail avait été fait à l'Institut Pasteur à Téhéran. On avait toujours peur que les données ne soient pas reproductibles et on a fini par les faire reproduire. L'acide lipoïque et hydroxycitrate, c'est comme le bleu de méthylène, c'est vieux comme Mathusalem. Ça, c'est connu. L'acide lipoïque, c'est un médicament en Allemagne. Il y a des formes injectables. Donc, on connaît précisément la toxicité et ainsi de suite.
On peut le trouver en pharmacie en France ?
On peut le trouver sur Internet et on peut le trouver en parapharmacie. Donc, ce sont des choses...
Alors, pas sous forme de médicament, alors ?
Non, sous forme de complément alimentaire. Mais vous savez, la différence entre un complément alimentaire et un médicament, c'est pas strictement évident. C'est purement législatif. Et donc l'acide lipoïque a son AMM en Allemagne ou dans d'autres pays comme ça.
Donc AMM, c'est...
D'autorisation de mise sur le marché, merci de me faire préciser. Donc on sait la toxicité, les doses. Et les malades ont commencé à prendre les mêmes doses que pour les autres indications qui étaient connues, c'est-à-dire 800 mg matin et soir. Ça vaut ce que ça vaut, peut-être que des doses plus importantes seraient plus efficaces, ou peut-être pas, j'en sais rien. Et ce sont les malades qui ont démarré. Moi, je n'ai pas démarré, je n'en avais ni le droit ni l'envie. Et les malades rapportaient, là encore, en conjonction avec les traitements standards classiques, que les tumeurs évoluaient moins vite. Puis d'autres malades sont venus avec du dioxyde de chlore, d'autres avec le bleu de méthylène, et ainsi de suite. Et donc, on arrive avec un corpus, en réalité, de dizaines de molécules qui sont potentiellement utilisables.
Mais vous, vous avez donc associé l'acide lipoïque avec quoi ?
L'hydroxycitrate, qui est le deuxième médicament, qui est lui quelque chose qui a été utilisé pour faire maigrir les femmes.
On donnait un coup de faim, lui.
Un coup de faim, mais en réalité, ça ne coupe pas beaucoup l'appétit.
Ouais.
Et tout ça sont des molécules qui sont très utilisées dans le monde des médecines douces. Enfin, l'acide lipoïque, pour revenir au médicament dont je vous parlais plus avant, c'est utilisé par les coureurs du Tour de France pour améliorer leur performance, l'hydroxycitrate pour maigrir, ou ainsi de suite. Je ne rentre pas là-dedans, enfin, ce n'est pas mon monde, mais tout ça pour vous dire que la toxicité, elle est connue et que je ne pense pas que les malades aient pris un risque majeur quand ils ont décidé de s'automédiquer.
Alors, attention, ce traitement métabolique, il est en complément.
Alors, il est totalement en complément et il ne faut surtout pas arrêter les chimios.
C'est un traitement d'appoint classique. C'est ça qu'il faut comprendre aussi.
Totalement. Hein. Alors, ce qui a été fait ou ce qu'on a fait, c'est que quand on utilisait ces traitements métaboliques chez la souris en conjonction avec la chimio, c'est-à-dire que les traitements classiques, on augmentait l'efficacité de la chimio.
Alors, il vous arrive d'associer cette association avec d'autres molécules bien connues, le metformine par exemple, dans quel cas ?
Alors, la metformine, chez la souris, ça marchait du feu de Dieu.
Ah, c'est le metformine, c'est ce qu'on utilise dans le diabète souvent.
Le metformine, c'est un antidiabétique, donc ça diminue comme toujours le sucre. Donc, ça marchait du feu de Dieu chez souris. Par contre, ce que m'ont dit les malades, c'est que ça ne marche pas bien chez l'homme. Enfin, je n'ai rien entendu qui, moi, me donnait l'impression qu'on avait affaire à quelque chose d'intéressant. Je vous répète que moi, j'ai aucun lien d'intérêt ni avec les fabricants de metformine, ni avec les fabricants de bleu, et ainsi de suite. Donc, je ne peux que vous rapporter ce que me disent les malades.
Et vous partez toujours de ce que les malades vous rapportent, en fait. Vous l'écoutez, surtout.
J'essaie d'écouter, parce que les malades racontent de temps en temps n'importe quoi, mais pas toujours. Il y a là-dedans des vraies pépites, il y a des choses qui se répètent de malade à malade, et là-dedans, il y a des choses extraordinairement importantes.
On parlait de la chimiothérapie tout à l'heure. Ce que j'arrive pas à comprendre, parce que je me suis beaucoup interrogé, c'est pourquoi dans certains cas, la chimio, ça marche, notamment dans certains cancers de l'enfant. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas sur les cancers de l'adulte ? Donc ça veut dire que ou ça marche et ça marche tout le temps, ou ça ne marche pas et ça ne marche pas tout le temps.
C'est une vraie question à laquelle je n'ai pas de réponse. Et personne n'a la réponse. Et pire, la question n'est même pas posée. Vous êtes le premier à me poser cette question. C'est élémentairement une vraie question.
Parce qu'on ne peut pas être ou pour ou contre la chimiothérapie, enfin, globalement. Puisqu'elle fonctionne chez certains cancers de l'enfant. Alors, c'est sur quel cancer, par exemple ?
Bon, je vais essayer d'être clair. Je pense que ça marche chez l'enfant parce que l'enfant n'a pas la même rigidité. Les cancers de l'enfant n'ont pas la même dureté que les cancers de l'adulte. Et les cancers du testicule ou les cancers, les Hodgkin chez qui ça marche, sont des cancers qui sont moins durs, donc qui sont moins en fermentation que les autres tumeurs.
Et quand vous dites dur, c'est au toucher, hein.
C'est dur au bout des doigts, quoi. Et on sait très bien qu'une maladie d'Hodgkin qui répond très bien à la chimiothérapie est moins dure qu'un adénocarcinome ou un cancer classique. Donc, à mon avis, il fermente moins, et c'est pour ça qu'on est en dessous d'un certain seuil et que ça marche. C'est une hypothèse, c'est pas du tout démontré. Par contre, et c'est ça le vrai problème, la chimio a une efficacité dans les cancers classiques, réels, mais qui, elle, n'est que malheureusement souvent que transitoire. Et ce qu'on fait, on ne sait pas.
Donc, quels sont les cancers sur lesquels la chimiothérapie a une vraie, on va dire, efficacité ?
Alors,
je vous pose la question, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui ont fait des chimios, que ça a mis à plat, et qui se disent, bon, finalement, à quoi ça sert la chimio ?
Ben, ça dépend déjà de ce que vous allez dire par efficacité, qui est déjà un terme qui n'est pas clair.
Donc,
ce qu'on guérit, ce sont les cancers de l'enfant, les leucémies, les cancers du testicule et les maladies de Hodgkin et certains lymphomes. Ça, c'est clair, indiscutable.
Avec la chimio ?
Avec la chimio. Pas tous, mais l'immense majorité des malades. Ce que l'on ralentit, ce sont les autres. Et une partie des autres uniquement. Mais quand vous avez un cancer métastatique classique du poumon ou du côlon, la chimio va ralentir l'évolution, vous faire gagner du temps, mais elle ne va pas vous guérir. Et c'est nous, ce qu'on voudrait, c'est rallonger ce temps où la chimio est efficace pour permettre aux malades de vivre de nombreuses années le mieux possible.
Ça, c'est votre obsession, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous voulez que le malade, il vive plus longtemps et dans des meilleures conditions de vie, en fait.
Si vous voulez, on est pris entre deux choses. J'ai une première obsession, c'est d'y comprendre quelque chose. Je suis gaulé comme ça, j'ai besoin de comprendre. Chacun ses choix. Et la deuxième, c'est que comment est-ce qu'on aide les gens ? Enfin, on est médecin. Un médecin, c'est fait pour aider. C'est pour ça qu'on a fait le serment d'Hippocrate. Et on est là pour aider. Et à mon avis, la meilleure façon d'aider, c'est de prolonger la vie des gens le moins mal possible avec des traitements les moins agressifs possibles. C'est pas d'aller tuer toutes ces cellules tumorales parce que ça, on ne sait pas faire. Mmh. Et je ne vois pas comment on peut y arriver.
Quelles sont les questions qu'un malade à qui on a dit voilà on va vous mettre en chimio pourrait poser à son oncologue ou à son cancérologue avant?
Moi, je veux dire c'est extrêmement intime ce genre de questions. D'abord, la majorité des malades ne posent pas ou peu de questions. Ils sont perdus dans des circuits où ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés et ils sont paniqués. Moi, ma façon à moi de réfléchir a toujours été de retourner aux chiffres. Quelles sont les chances de survie? Qu'est-ce que je gagne? Combien de mois? Ainsi de suite. Et à ce moment-là, on peut faire un choix.
Laurent Schwartz est notre invité, l'invité d'AVS jusqu'à 10h sur Beurre FM.
AVS revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, AVS avec Philippe Robichon.
Laurent Schwartz décode le cancer pour nous. On fera autant d'émissions qu'il faut pour qu'on comprenne bien cette maladie. Ceux qui nous écoutent peuvent lire votre livre, Laurent Schwartz, qui s'appelle « Les clés du cancer » chez Thierry Soucard. On parlait tout à l'heure de la chimiothérapie, mais on la met toujours au singulier, alors qu'il y a plusieurs types de chimiothérapie. Toutes les molécules ne sont pas équivalentes en chimio.
Alors moi, j'aime bien les vieilles molécules. Au fond, les molécules peuvent être triées par les essais thérapeutiques et par le temps. Et les molécules qu'on invente dans les années 50 ou 60 restent des molécules clés. Celle que j'aime bien, par exemple, c'est le vieux 5-fluorouracile qui est inventé dans les années 50 et qu'on va retrouver comme la clé des traitements, encore aujourd'hui, des cancers digestif ou du poumon ou du sein. Ce sont là des molécules qui ne sont pas très violentes, qui passent facilement, dont le taux de réponse n'est pas mauvais et qui, à mon avis, sont un peu passées de mode et c'est un tort.
On rappelle le nom?
5-fluorouracile, 5-FU, pour ceux qui parlent le langage des médecins.
5-FU. Ça fonctionne comment une chimio?
Ben, c'est toujours ce que j'essaie de vous dire. D'abord, la chimiothérapie, c'est fait pour tuer. Donc, ça tue des cellules, mais au fond, est-ce que ça marche comme ça dans le corps? C'est loin d'être clair.
Mais est-ce que ça sélectionne les cellules que ça tue?
Ben attendez, je vais essayer de vous répondre. Quand vous faites une chimio, comme je vous avais dit la dernière fois, vous ne retrouvez pas les cadavres des cellules mortes dans le sang ou ainsi de suite. Donc, le plus probable, c'est que ça ne vous tue pas tellement de cellules chez l'homme. En boîte de pétri, ça les tue. Mais quand vous avez un kilo de cancer qui est là, vous faites votre chimio, le malade va un peu mieux et vous passez peut-être à 500 grammes, mais ça vous en a pas tué 99,99% des cas. Ça va blesser les cellules, ça c'est clair. Et en blessant les cellules, les flux métaboliques ne vont plus partir vers la prolifération parce qu'il faut déjà réparer. Donc, votre cellule va prendre son énergie, non plus pour se diviser, mais pour réparer. Et très probablement, la chimio marche en changeant les flux métaboliques, comme les traitements métaboliques dont je vous parlais plus avant, et simplement pour réparer.
Mmh. La radiothérapie, ça fonctionne comment?
Même chose. La chimiothérapie, la radiothérapie et ou l'immunothérapie ont des points communs d'un point de vue chimique qui sont extrêmement proches. Tout ceci, ça fait des radicaux libres. Ces radicaux libres font de l'oxygène singulé et ils vont détruire les cellules et ou les blesser suffisamment pour qu'elles mettent leur énergie non plus à proliférer, elles sont blessées, mais au contraire à se réparer.
Alors, l'immunothérapie, c'est très prometteur, hein, puisqu'on nous dit qu'on va réussir à dresser des cellules pour en manger d'autres.
Oui, mais tout ça, ça marche. Un petit peu, évidemment, on se retrouve dans l'immunothérapie comme on était au début de la chimiothérapie dans les années 60. C'est-à-dire qu'on voit clairement des réponses, que certaines réponses sont durables, mais que dans l'immense majorité des cas, ce ne sont ou pas de réponses ou des réponses transitoires. Moi, j'aime toujours beaucoup les chiffres. Vous savez, chacun se récupère là où il peut, et les chiffres ont une forme de froideur d'analyse. Par exemple, l'immunothérapie a été énormément prescrite dans le mélanome. Le mélanome, c'est un cancer de la peau, qui est un cancer qui est potentiellement extrêmement mauvais. Et quand vous allez au chiffre de la mortalité par mélanome en France, hein, où ça se trouve sur Internet, vous voyez que l'immunothérapie n'a pas impacté de façon évidente la mortalité par cancer par ce mélanome. D'autres disent que ça marche dans les cancers digestifs ou ainsi de suite. Moi, je suis plus dubitatif quant au fait que l'immunothérapie va vous régler la cancérologie et vous vider les services de cancérologie comme dans le temps les antituberculeux ont vidé les sanatoriums. Mais peut-être j'ai tort et vous savez, c'est le temps qui dira ça.
Vous aimez les chiffres? Est-ce qu'il y en a beaucoup des chiffres en termes de cancer, hein? Là, c'est Octobre Rose, donc effectivement, on nous donne beaucoup de chiffres en ce mois de dépistage consacré au dépistage du cancer du sein. Est-ce qu'on trouve beaucoup de chiffres en termes de cancer?
Les chiffres sont difficiles à trouver, en réalité. Quand vous essayez de savoir l'impact, par exemple, d'une chimiothérapie dans un cancer du pancréas, par exemple, je vais vous prendre ça comme exemple, je regardais ça il n'y a pas si longtemps. Vous avez des gens qui arrivent et qui sont soit jaunes, soit pas en forme à cause de leur cancer du pancréas. Au fond, quelles sont les chances de survie? Alors, les données que vous avez sont des données hospitalières, mais les gens qui arrivent à l'hôpital dans les services de cancérologie digestive, c'est déjà qu'une fraction du total, parce qu'il y a déjà pas mal de gens qui sont morts chez eux ou qui sont allés directement en soins palliatifs. Et quand vous posez la deuxième question, quelle est la valeur des traitements, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des essais randomisés chimiothérapie versus histoire naturelle de la maladie, vous n'avez quasiment rien. Donc au fond, vous ne savez pas, vous n'avez une vraie difficulté à savoir l'impact des thérapeutiques modernes.
Quand on regarde les taux de mortalité en cancer sur les 50 ou 60 dernières années, Laurent Schwartz, qu'est-ce que ça nous donne comme chiffre?
Vous parliez du cancer du sein. Moi, j'aime bien, vous avez chaque fois qu'il y a quelqu'un qui meurt en France ou dans les pays occidentaux, il y a un certificat de décès qui est rempli avec la cause de mortalité. Donc vous avez du chiffre. Tout ça est mouliné au Centre international de la recherche contre le cancer à Lyon. Et vous avez donc possibilité de suivre, c'est sur Internet, l'évolution par exemple du cancer du sein en France. Et vous voyez que le cancer du sein, la mortalité augmente entre 1960 et 1995 de façon claire et que ça baisse un peu depuis. Aujourd'hui, la mortalité par cancer du sein est la même que celle quand je faisais mes études de médecine en 1980. Ceci dit, c'est des stats, donc on compare les gens qui sont morts d'une tranche d'âge donnée et 100 000 personnes, donc on compare le comparable. Donc il n'y a pas eu une percée évidente et indiscutable sur la mortalité par le cancer du sein depuis que j'ai commencé ma carrière de cancérologue.
Ça, ce sont des chiffres. Quand on compare sur d'autres cancers, par exemple, si on prend le cancer de l'estomac, par exemple.
Alors, le cancer de l'estomac, il se passe autre chose, c'est que ça diminue depuis longtemps. Et on n'a pas en réalité compris pourquoi, probablement parce qu'on met les aliments dans le frigidaire et qu'elles sont donc moins pourries et donc font moins de produits chimiques, mais ça diminue de façon spontanée depuis longtemps. Tout ça pour vous dire que d'aller aux chiffres, pour savoir de façon précise qu'a été l'impact des thérapeutiques modernes, et quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Et moi, je suis convaincu qu'une révolution en cancérologie est possible, mais elle n'est possible que si tout le monde se met autour de la table.
On va prendre un cas pratique. Hein. On vient d'annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer. Qu'est-ce que vous, en tant que cancérologue, qui connaissez ce milieu de l'intérieur depuis 40 ans, qu'est-ce que vous lui conseillez? Parce que c'est vrai que c'est à un moment donné, vous êtes pris sous le diagnostic, vous n'avez pas forcément la bonne attitude, vous ne savez pas quelles sont les questions à poser, vous ne savez pas quelles sont les questions à poser sur votre protocole de soins, sur votre parcours thérapeutique. Pour vous, quelle est la bonne attitude à avoir?
D'abord, faire confiance à son cancérologue. Parce que son cancérologue sait plein de choses. et il est là pour soigner. Alors après, vous avez plusieurs cas de figure. Vous êtes dans le cadre d'une maladie, somme toute, à pronostic favorable, et là, il ne faut rien changer. Quand vous vous retrouvez dans les cancers dont je vous parlais plus avant, qui sont guéris par la chimio, il ne faut surtout rien changer. Ça serait criminel. Après, que faire quand on est dans une situation désespérée? Et ça, au fond, je ne peux pas vous répondre. Moi, je voudrais que des essais soient faits. Je vous parlais du régime cétogène, qui est une vieille histoire. Il n'y a pas d'essai randomisé, il n'y a rien de clair. Probablement, ça marche. Les gens qui le font en sont convaincus. Les traitements métaboliques, moi, je suis convaincu d'une forme d'efficacité et aussi d'une absence de toxicité. Mais au fond, je dois vous avouer que je ne sais pas. Et c'est ce moment de transition où on a l'impression qu'on a compris le cancer, ce qui n'est tout de même pas rien, et où il y a tous ces malades qui sont là, qui sont perdus, et au fond, dont on ne sait pas comment les aider au mieux.
Mmh. Mais donc, si on vous annonce un cancer demain, comment on fait? Donc, soit on est dans les cancers, comme vous avez dit, qui sont bien soignés par la chimio, tant mieux. Après, il y a toutes les questions, par exemple, sur les questions de l'opération. Comment savoir si une opération est justifiée ou pas, par exemple?
Je peux pas rentrer là-dedans. Vous savez, le médecin est pris entre deux feux. D'abord, il y a la loi. Et la loi, ça se respecte. Et tout doit être fait par des essais randomisés. Enfin, vous connaissez tout ça.
Ouais, oui.
Et deuxièmement, il y a l'assistance à personne en danger, qui est aussi quelque chose. Moi...
Mais que parfois, on oublie.
Oui, mais je veux dire, on se doit d'assister l'autre quand l'autre ne va pas bien. Moi, la ligne que j'ai choisie, qui est une ligne personnelle et qui n'engage que moi. Quand on me demande conseil, je réponds clairement. Mais je n'ai jamais touché un centime des malades, je n'ai pas de brevet et je suis aussi propre que possible pour rester à distance de toute discussion lourde. Au fond, on est à un moment où l'espoir est possible. Comme je vous le disais plus avant, je pense qu'on a compris. Je pense que ce drame va s'arrêter. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas si les institutions vont bouger ou pas bouger. Je pense que comprendre le cancer, ça amène à une autre question qui est fondamentale, qui est peut-être plus ésotérique, mais qui est réelle, c'est comprendre la vie. Et que la vie, elle aussi, a une explication. Quelque chose qui a 4 milliards d'années, c'est forcément simple. Et moi... D'une certaine façon, et peut-être égoïstement, j'ai fui une partie des conversations avec les malades, parce que d'abord, ce sont des conversations très lourdes. Les gens viennent angoissés, c'est difficile, et je me suis réfugié dans ce que je savais faire le mieux, c'est-à-dire des équations et comprendre quelque chose.
On va terminer par le chameau. Ça a combien de bosses, un chameau?
Une.
Bien.
Mais alors, attendez, je vais finir si vous parlez du chameau. Le chameau, c'est la bosse, c'est plein de graisse.
Je voulais savoir si vous saviez ce qu'il y avait dans la graisse, dans la bosse du chameau.
Voilà, c'est plein de graisse. C'est pour ça que comme ça brûle, ça graisse, ça fait de l'eau et ça permet au chameau de se balader dans le désert pendant des dizaines de jours.
Mais c'est de l'eau comment? Et c'est de l'eau comment?
Métabolique. Je vous remercie de m'avoir lu. Philippe Robichon, je suis extrêmement reconnaissant du boulot que vous avez fait.
De vous avoir lu. Je vous remercie d'être venu. Bon, vous reviendrez. On fera une émission sur l'eau parce que l'eau, c'est un sujet important. Et en termes de cancer aussi, c'est important, l'eau.
Et en termes de mémoire.
En termes de mémoire, la mémoire de l'eau. Laurent Schwartz sur Beurre FM, vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net. Vous verrez l'émission, c'est la chaîne YouTube puisque l'émission est filmée. Merci à Amande d'avoir réalisé cette émission. Je rappelle que vous publiez Les Clés du Cancer chez Thierry Soucard. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.